Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors je sais, c'est encore un peu particulier puisque ça se fait par écran interposé, mais c'est un plaisir d'être avec vous et de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Un thème qui l'a mis sur mon cœur il y a bien longtemps, en janvier, alors je vous vois déjà venir et me dire « Ah, c'était en janvier, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais vous savez, certes, l'actualité est changeante, le monde change, mais s'il y a une chose qui ne bouge pas, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu met quelque chose sur notre cœur, si cette chose est attachée à la parole, alors elle ne variera jamais. » C'est pourquoi le thème que je vais vous partager ce matin, je pense, est toujours d'actualité. Et le thème que je vais vous partager ce matin m'est venu à la base d'un article dans le site internet sérieux du Monde qui relatait d'une étude scientifique qui disait que selon eux, du moins c'est la conclusion, les gens qui vivent le plus longtemps sur Terre sont ceux qui arrivent à se donner de nouveaux objectifs toujours continuellement tout au long de leur existence. Et en lisant cet article, je me suis dit que, sur le fond, celui-ci n'était peut-être pas totalement en désaccord avec ce que nous montre la parole. Parce que quand on y regarde bien un peu plus près, la Bible nous montre des différentes histoires de personnes, d'hommes et de femmes de Dieu, à qui Dieu donne tout au long de leur vie de nouveaux objectifs qui peuvent même changer. Et surtout, Dieu a un seul désir au fond de son cœur, c'est que chaque être humain, d'une façon générale et globale, ait un objectif à un moment donné dans sa vie. C'est de le rencontrer personnellement. Et si cette rencontre aboutit, alors elle permet à l'homme, la femme qui fait cette rencontre, d'hériter en cadeau d'une chose incroyable, la vie éternelle. Donc je suis d'accord avec cette étude. Oui, en effet, si nous nous fixons des bons objectifs tout au long de notre vie, si nous fixons surtout le bon objectif, alors nous pouvons vivre très longtemps, nous pouvons vivre éternellement. Vous l'aurez compris, après cette introduction ce matin, mon but sera de parler avec vous des objectifs, des missions que Dieu nous donne tout au long de notre vie. Et il y a un mot qui fait partie de notre jargon un peu chrétien pour parler de ces objectifs, de ces missions que Dieu nous donne, c'est le mot « appel », l'appel. Ton appel, mon appel, notre appel. C'est pourquoi le titre de la prédication ce matin sera « C'est l'heure de l'appel ». Avec deux questions sous-jacentes qui feront deux parties. La première, nous répondrons à la question « Quel est notre appel ? Quel est ton appel ?» Et deuxièmement, nous verrons comment vivre cet appel à la perfection, du moins le mieux possible. Alors je sais, Mathieu nous a déjà partagé sur ce sujet-là il n'y a pas si longtemps, c'était au tout début du confinement, il en avait fait une vidéo de sa prédication chez lui autour de l'histoire de Zachée. L'idée à travers ça, bien sûr, ne sera pas de démonter ce que mon frère a fait, surtout que ce qu'il avait fait était très bien, mais voyez plutôt cette prédication comme un complément. D'ailleurs, il était prévu à la base que je prêche une semaine après lui, donc gardons la façon dont Dieu avait conduit les choses. Et pour commencer, il me semblait quand même important de définir ensemble ce que c'était que l'appel. Parce que même si c'est un mot qu'on utilise dans notre jargon chrétien de façon assez habituelle, des fois on en oublierait peut-être le sens concret de ce que nous montre et ce que nous dit la parole à son sujet. D'ailleurs, en parlant de la parole, ce mot appel, on le retrouve que 8 fois dans la Bible. C'est très peu finalement par rapport au fait qu'on l'utilise nous de façon régulière. 8 fois dont 6 fois dans le Nouveau Testament. La définition que je vais vous en donner ce matin, c'est une définition qui m'est propre, qui m'est personnelle et que je me suis un peu construit en lisant justement ces 6 versets du Nouveau Testament qui parlent de l'appel. Alors, elle m'est propre comme je vous l'ai dit, donc ça ne regarde que moi, mais je pense en tout cas qu'elle est proche de ce que la parole veut nous montrer. Pour moi, donc, et après ces lectures, l'appel, c'est une invitation particulière. Une invitation particulière que fait Dieu, à qui ? À tout homme. Homme avec un H, bien sûr, majuscule, c'est-à-dire homme, femme, chrétien ou pas. Comme une mission où des objectifs lui sont fixés. À travers cette mission, l'homme peut rencontrer Dieu et ensuite le servir. En grec, ce mot est traduit par « klesis », qui signifie aussi vocation et sera toute son importance à un moment donné dans ce qu'on va partager ensemble. Donc si je résume, vous l'aurez compris, l'appel, c'est une mission, c'est la mission que Dieu nous donne, que donne à tout homme pour le rencontrer et surtout le servir en se basant comme sur une notion de vocation, c'est-à-dire le servir là où nous sommes à l'aise et faits pour. Je vous propose de prendre un des 6 premiers versets du Nouveau Testament qui utilise le mot appel, et ce verset, on le retrouve dans 2 Pierre 1:10. Il y est dit, c'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a choisi, redoublez d'efforts dans cet appel. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ce verset est quand même assez intéressant pour commencer parce qu'il montre que nous sommes appelés à redoubler d'efforts dans cet appel. C'est-à-dire que l'appel, il faut que nous fassions tout, pardon, pour le vivre. Et surtout, si nous le vivons en redoublant d'efforts à fond, alors nous avons une promesse, c'est que nous tomberons jamais. Après avoir lu ce verset, il y a une question et un désir en vous qui doit se susciter, c'est de se dire, mais à quoi suis-je appelé? Quel est mon appel? Et c'est ce qui fera notre première sur les 2 parties de cette prédication. Et pour commencer, et pour répondre donc à ces 2 questions, j'avais envie de jouer un petit peu avec vous. Jouer au jeu du vrai ou faux. Alors je sais, vous êtes derrière votre écran, assis sur votre canapé, peut-être avec vos écouteurs. Les gens autour de vous vont vous regarder bizarrement si vous répondez vrai ou faux à voix haute, mais je vous invite vraiment à y jouer. Je vais donc vous donner tout au long de cette prédication des phrases, et il vous suffira selon vous de dire si celle-ci est vraie ou fausse. Ça marche ? Et je vous propose, pour attaquer cette première partie, de partir sur une première phrase, une première pensée. Alors, vrai ou faux ? Nous avons tous un appel différent. Nous avons tous un appel différent. Je laisse un petit blanc. Ok, j'espère que tu as répondu. En tout cas, moi, je n'ai pas forcément pu entendre tes réponses, mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup de vrais, qu'il y a eu beaucoup de faux, qu'il y a peut-être eu des deux ou même des personnes qui ont dit « je ne sais pas ». Eh bien, j'ai envie de te dire ce matin, c'est pas grave. Parce que tu aies répondu vrai, faux ou que tu ne saches pas quoi répondre, tu avais en partie raison. Car nous verrons dans cette première partie que sur le fond, et la Bible nous le montre et j'en suis persuadé, nous avons tous un appel commun. Mais que c'est sur la forme que celui-ci variera et va faire la différence entre les uns et les autres. Et pour illustrer ça, je vous propose de prendre ensemble 1 Jean 3. Et notamment les 3 premiers versets. Je vous propose de le lire ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors ce passage, je pense qu'il faudrait le relire peut-être plusieurs fois pour vraiment saisir tout le sens et toute la profondeur de celui-ci. Pour autant, je reste persuadé, comme je vous le disais précédemment, que celui-ci nous montre clairement que nous avons tous, sur le fond, un appel commun. Un appel commun qui consiste en 3 points. Premièrement, et on le voit dès le verset 1, à ce que nous devenions dans un premier temps enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés, et c'est notre appel, tout homme sur la terre à devenir à un moment donné enfant de Dieu et à se considérer comme tel. Il est en effet dit pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est ce que je disais dans notre introduction, dans mon introduction. C'est bien ce petit aspect qui nous permet d'hériter de la vie éternelle. Comment ? Eh bien, bien sûr, Dieu a facilité les choses en envoyant son Fils Jésus-Christ. Tout cela, bien sûr, s'est passé par la croix. Jésus a pris nos péchés, les a portés à la croix pour que nous n'ayons finalement qu'à le reconnaître en tant que Sauveur et Seigneur, nous repentir pour hériter à la fois, un, de cette chance que Dieu nous considère comme son propre enfant, mais nous donne aussi cette vie éternelle. Mais cet appel commun, nous ne sommes pas simplement appelés à devenir enfants de Dieu. Le verset 1 nous montre également, deuxième point, que nous sommes appelés à ce que le monde puisse lui-même connaître Dieu maintenant que nous le connaissons et donc à travers nous. Il est en effet écrit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est une invitation donc à faire en sorte qu'à travers nous, le monde autour de nous puisse connaître Dieu. Alors, à travers ça, bien sûr, il y a l'idée d'évangélisation, et c'est l'occasion, je pense, ce matin, de remercier toutes les personnes qui œuvrent ici pour l'évangélisation. Mais je sais très bien que quand on utilise le terme évangélisation, il y a des gens qui tout de suite sont un peu mal à l'aise. Ah, c'est pas trop mon truc, moi ça me fait un peu peur. Alors si c'est mon appel, je vais me sentir mal. Mais vous savez, il ne suffit pas forcément de descendre dans la rue pour évangéliser. À travers ce passage et ce verset 1, on voit bien que c'est à travers ce que nous reflétons que nous pouvons également impacter le monde qui ne connaît pas Dieu. Un petit témoignage pour ça, qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, enfin maintenant il y a longtemps, le temps passe vite, c'était au mois de décembre. C'était un dimanche matin, et ce dimanche matin-là, je n'allais pas à l'église. Je commence pas par un bon exemple. Mais j'allais faire une course, je m'étais inscrit à une course, et je devais la faire à la base avec un frère de l'église qui s'est blessé, et bon, ben, en dernière minute, j'ai invité un collègue, prof d'EPS à mon école, à venir avec moi, et donc on fait la route, on discute un petit peu pour aller jusqu'à cette course, et on fait un peu plus connaissance, hors du cadre de l'école, et celui-ci me dit justement que ce matin, bah, son épouse avec ses enfants vont aller à la messe. Enfin, il me dit, c'est pas la messe, ils appellent ça le culte. Donc moi, au fond de moi, je rigole et je le laisse parler. Il continue et il dit, donc je dis, ah, donc ils sont chrétiens, évangéliques, protestants, oui, c'est ça, donc il me donne l'église, etc. Et puis il me dit, et je dis, et toi alors? Il dit, oh, moi, ouais, pourquoi pas, je suis sympathisant. Je vais de temps en temps au groupe de maison où mon épouse va, et j'aime bien, je m'assois, j'écoute les gens. Je trouve que les gens, ils ont quelque chose de particulier, mais j'aime bien. Mais pour autant, je me sens pas encore totalement interpellé. Et il dit bien, d'ailleurs, mercredi dernier, il y avait un groupe de maison, c'était bien, et je disais à mon épouse, oh bah, ils sont vraiment bien. Et mon épouse me disait, bah, ces gens, s'ils sont bien, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils ont Dieu dans leur vie. Et il dit à ce moment-là, il dit, je me souviens que j'ai pris un exemple, je dis, mais tu sais, ma chérie, il n'y a pas forcément besoin d'être chrétien pour avoir quelque chose de particulier. Tiens, par exemple, mon collègue au travail avec qui je fais une course dimanche, Geoffrey, je sens qu'il a un truc, mais il n'est pas forcément chrétien. Et je lui dis, ben tu sais, d'habitude le dimanche matin, je vais t'avouer, je suis pas en train de faire des courses. Ce que je fais, c'est que je vais à l'église aussi. Mon père est pasteur, etc. Et puis je rentre dans ce détail. Ben, je peux vous dire que ça a troublé énormément son cœur tout au long de cette matinée, à un tel point que ça l'a tellement troublé et impacté qu'aujourd'hui, il est dans une véritable démarche pour rencontrer Dieu. Alors je suis pas là en train de dire que je suis meilleur que les autres, que je suis un super exemple, mais juste pour vous donner, j'ai pas forcément cherché à descendre dans la rue à ce moment-là pour évangéliser. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, pense que déjà à travers ton attitude, ton comportement, ce que tu reflètes, tu peux impacter le monde qui ne connaît pas Dieu. Ça, c'était donc le deuxième point. Je rappelle, donc nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, à nous faire connaître du monde pour que celui-ci connaisse à son tour Dieu. Et enfin, le verset 3 nous montre que notre appel commun est également à ce que nous cherchions à être purs comme Jésus l'est. Comme il est écrit au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Alors je sais qu'on insiste peut-être beaucoup en ce moment, je ne sais pas si vous faites attention, mais dans les différentes prédications qu'on a, à chercher à être pur, à chercher la purification. C'est un domaine, je pense, important, puisque donc ici on voit qu'il fait partie d'un des trois points de notre appel commun. Et surtout, il va de pair avec le deuxième point, puisque pour que les gens en face de nous sentent que nous avons quelque chose de particulier, il faut que nous cherchions avant tout à être purs, parce que c'est cette pureté qui va troubler leur cœur et leur donner et susciter l'envie de connaître le secret que nous avons au fond de nous. Mais voilà, comme je vous le disais, sur le fond, notre appel commun. Donc si tu te poses la question ce matin de te dire « je ne connais pas mon appel », déjà base-toi là-dessus, base-toi sur ces trois points, c'est notre appel commun. Éphésiens 4:4 nous dit « il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour cet appel ». Vous voyez ici l'unicité qu'il y a dans ce verset, on voit bien en tout cas que oui, nous sommes appelés à vivre cet appel. Philippiens 3:14 nous dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de cet appel céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Maintenant que vous ayez connaissance de cet appel sur le fond, courons pour le saisir. Mais pour le saisir et pour courir, il faut des fois bien s'entraîner et bien courir, avoir une bonne attitude, une bonne gestion de notre effort. C'est pourquoi je vous propose dans un deuxième temps de voir la partie numéro 2 qui nous permettra de répondre à la question suivante « Comment bien vivre notre appel ?» Quand, comment et où bien vivre cet appel. Et je reprends mon jeu, si vous voulez bien, ensemble, ce vrai ou faux avec trois phrases. Je vous laisse, pareil, dire selon vous si c'est vrai ou faux. J'y répondrai pas tout de suite, on le verra ensuite dans la deuxième partie. Alors, vrai ou faux, première phrase, je dois attendre d'être prêt avant de vivre cet appel. Je dois attendre d'être prêt avant de vivre cet appel. Je vous laisse répondre. Vrai ou faux, deuxième phrase, l'appel est plus fort pour les responsables de l'Église. Vous savez, les pasteurs, les anciens, eux, c'est top appel. Nous, on le vit un peu moins fort. L'appel est plus fort pour les responsables de l'Église. Enfin, vrai ou faux, troisième phrase, je peux vivre cet appel tout seul. Pas besoin des autres. Je peux être isolé chez moi et vivre mon appel. Je peux vivre cet appel tout seul. Comme je vous le disais, je ne vais pas vous répondre tout de suite à ces trois phrases. La suite et le passage que nous allons prendre ensemble, l'exemple que nous allons prendre ensemble va y répondre naturellement. Et en matière d'appel, il y en a un qui est quand même fort comme exemple dans la Bible et qui va pouvoir ici nous impacter et nous parler. C'est l'appel que Jésus fait, l'appel des disciples. Et l'appel des disciples, on le retrouve dans Luc 5. Je vous propose de le lire ensemble et on en rediscute juste après. Luc 5, verset 1. « Or la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci revinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « Sois sans crainte désormais, voici mon plan, mon appel pour toi. » Tu deviendras pêcheur d'hommes. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Un très beau passage, une très belle histoire qui va nous permettre ici de répondre donc à ces trois questions. Quand, où et comment vivre au mieux notre appel? Et je vous propose dans un premier temps de voir quand. Quand vivre cet appel? Cet appel notamment de donner dans la partie 1. Et cette réponse, on l'aura en trois points. Tout d'abord, quand? Eh ben, tu n'as pas de raison d'attendre, vas-y. Il est bien dit au verset 4 que Jésus dit à Simon, avance au large et jetez vos filets. Il n'a pas dit, attends encore 30 minutes, ou attends une heure, ou attends demain, il fera plus beau. Non, il lui dit, avance et jette, lance-toi maintenant. Bref, tu n'as pas de raison d'attendre, vas-y. Alors, des fois, une des raisons qui nous fait attendre pour entrer dans cet appel, c'est qu'on se dit, je suis pas au top en ce moment, donc je le ferai quand j'irai mieux. Non, tu ne dois pas te dire, je le ferai quand j'irai mieux. Au verset 5, on voit que Simon dit, Maître, nous avons peiné toute la nuit. Les futurs disciples ici sortaient quand même d'une nuit blanche, on peut imaginer, à vouloir pêcher sans rien attraper. Ils devaient être exténué, fatigué, découragé, bref, au fond du trou. Pourtant, c'est dans cette situation-là que Jésus les appelle à entrer justement dans l'appel qu'il nous donne. Enfin, au verset 8, et autre raison des fois, c'est qu'on se dit, je ne vais pas y aller maintenant parce que je ne suis pas qualifié pour ça. Pourtant, au verset 8, comme je vous l'ai dit, il est dit, par exemple, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je ne suis pas digne », sous-entendu. Mais, et c'est souvent une des raisons que l'on évoque quand on est jeune converti, on voit les autres, on se dit, waouh, ils sont à fond. Moi, c'est pas pour moi, je vais attendre d'être comme eux pour entrer dans cet appel. Non. Jésus appelle les disciples, les futurs disciples, tels qu'ils sont. C'est-à-dire, qu'ils n'étaient pas parfaits. Et on le voit dans la suite des Écritures qu'ils sont loin d'être parfaits. C'est pourtant avec des hommes imparfaits qu'ils désirent entrer dans l'appel. Autre question, comment ? Comment vivre cet appel pour le mieux ? Et une fois de plus, cette histoire va nous donner une réponse en trois points. Premièrement, comment ? Eh bien, en reconnaissant avant tout notre état de pécheur, première étape fondamentale de notre appel. On voit ici au verset 8 que Simon dit « Seigneur, je suis un homme pécheur ». D'une certaine manière, il reconnaît donc son état d'homme pécheur, d'homme imparfait. C'est le point central pour la repentance, le point central pour être reconnu enfant de Dieu. C'est ce que nous avons dit, et donc hérité de la vie éternelle. C'est ce que nous avons dit et partagé dans la première partie, le premier point de l'appel commun. Comment également vivre cet appel ? Eh bien, en utilisant les talents que Dieu t'a donnés. Et c'est là qui fera ce qui fera un petit peu que nous allons vivre cet appel d'une façon sur la forme différente. Au verset 10, il est dit « Désormais, tu deviendras pécheur d'hommes ». Je pense que ce n'est pas anodin que Jésus choisit des pécheurs. Par rapport à la suite, en tout cas, de son désir, c'est-à-dire que des hommes perdus soient rappelés, ramenés à lui, l'idée de pêche est quand même assez forte. Et finalement, ces pécheurs, ces futurs disciples qui sont pécheurs, devaient avoir des qualités qui allaient de pair avec cet appel que Dieu leur donnait. En étant pécheurs, ils étaient certainement patients, ils avaient ce désir de ne pas lâcher, d'aller au bout des choses. Ça faisait partie notamment des talents qui peuvent être exprimés dans notre appel. Alors je parlais avec un frère récemment qui me disait « Mais comment je dois servir ? Est-ce que je dois servir par nécessité, là où il y a de la place dans l'église, par rapport à mon appel ? Ou dois-je servir là où je me sens à l'aise, là où peut-être j'ai une vocation ? Tiens, vocation, et on revient à la définition. Oui, la réponse, elle est claire. Sers là où tu es appelé, là où tu as ta vocation, là où tu as tes talents. Tu es fait pour enseigner aux enfants. Va, propose tes services là où tu pourras impacter notamment les plus jeunes. Tu es plus doué à l'accueil. Va vivre cet appel à travers l'accueil. Bref, utilise notamment ce Bethsaïde. Vous savez, dans le Bethsaïde, à la fin, il y a un petit questionnaire où ressortent un petit peu, pour ceux qui l'ont fait, là où sont vos talents, là où sont vos domaines où vous pouvez exceller. Prends ces domaines et va voir les différents responsables. Et entre dans cet appel, si tu ne l'as pas encore fait, en te basant là-dessus. Enfin, troisième point, comment ? Eh bien, en choisissant d'en faire un objectif de tous les jours. Il est bien noté au verset 11 qu'ils le suivirent. Pas le suivre un jour sur deux, ou une semaine sur deux, ou pendant une heure, puis ils le lâchèrent. Non, ils le suivirent continuellement. Alors, je sais, là aussi, tu vas te dire, et tu vas me dire, oui, mais finalement, l'appel, ce n'est que les pasteurs qui le vivent tous les jours, parce qu'eux, ils sont payés pour ça, et encore certains pasteurs ne sont même pas payés par leur église, mais ils le vivent tous les jours, donc c'est eux. Non, là encore, j'ai une discussion récemment avec un couple d'amis qui disait, et j'ai aimé cette phrase, que nous sommes nous-mêmes pasteurs de notre entourage. Et ils ont raison. Dans un premier temps, nous pouvons vivre cette chose tous les jours en prenant soin des gens qui nous entourent, de notre famille qui ne connaît pas Dieu, et même notre famille qui connaît Dieu, nos amis, c'est la même chose. Prenons soin d'eux au quotidien, comme notre pasteur, le pasteur de notre église, prend soin de nous au quotidien. Nous pouvons nous aussi vivre cet appel quotidiennement, tous les jours. Enfin, dernière question, où vivre cet appel ? Et une fois de plus, cette histoire va nous permettre d'y répondre en trois points. Premièrement, tu n'as pas à vivre cet appel seul, mais en communauté. Ça répond à une des questions du vrai ou faux. Il est bien dit au verset 7 qu'ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Simon n'a pas mené cette pêche tout seul, mais à un moment donné a bien été obligé de faire appel à ses compagnons. C'est pas pour rien, je pense, que ceci est bien précisé dans le texte. C'est pour montrer qu'à un moment donné, on peut essayer d'y aller seul, mais on a besoin des autres. Nous devons vivre cet appel, certes, tout d'abord, c'est notre engagement personnel, mais avec les autres. Sinon, nous n'irons pas bien loin. Ou, deuxième point, tu dois trouver un point d'ancrage local au départ pour entrer dans ton appel. C'est pas pour rien également ici que dans cette histoire, au verset 1, il est noté, selon moi, que cette histoire se passe au bord du lac de Génézareth. On peut se demander pourquoi le signaler, quel intérêt ici, mais c'est comme pour montrer, je pense, une insistance par rapport à ce que je vous partage, que c'est ici, au lac de Génézareth, que tout a commencé. On sait qu'ici, ensuite, les disciples et Jésus vont beaucoup voyager, beaucoup tourner, mais c'est à Génézareth que ça s'est passé. C'est comme pour marquer le lieu, c'est ici que tout commence. Alors, pour vous, j'espère que ici tout commence à Betsalel, certainement que si tu nous écoutes, c'est ça, ou peut-être dans ton assemblée. Mais ça marque un point important. Pour vivre notre appel, il faut que nous ayons un point d'ancrage local au départ. Vous savez, il y a beaucoup, par exemple, de prophètes qui ont pu, des fois, parcourir la France avec leur don de prophétie, dire voilà, j'entre dans mon appel, je vais y aller par la prophétie, sans être attaché à une église. Ils ont souvent fait, je peux vous le dire, on a beaucoup d'exemples des fois, des gars. Alors que s'ils sont attachés à un point local, soumis aussi aux uns et aux autres, alors leur appel et la façon dont ils vont vivre leur don aura un impact plus fort. Enfin, où ? Eh bien, tu dois inscrire dans ton appel, dans une vision que tu approuves. Jésus dit bien à Simon, « Désormais, tu deviendras pêcheur d'hommes. » Alors, ils le suivirent. Ils le suivirent, pourquoi ? Parce qu'ils approuvèrent la vision que Jésus venait de leur donner. Ce n'est pas pour rien également que sur ces derniers temps, on vous a partagé, c'était en fin d'année dernière, beaucoup de messages sur la vision de Betsalel. Il est important pour que tu sois épanoui et donc que tu vives au mieux ton appel à travers notamment, donc comme vous, tu l'aurais compris, vos talents, que vous approuviez et que vous soyez en phase avec la vision qu'il y a ici à Betsalel. C'est parce qu'ils avaient approuvé la vision de Jésus à travers ses messages et l'appel qu'il venait de faire qu'ils se mirent à le suivre. Voilà, alors un dernier passage. Et on terminera là-dessus et je prierai. Éphésiens 4, 11, 12, vous le connaissez certainement. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, les autres comme responsables d'accueil, les autres comme responsables vidéo, les autres comme gérants de la sono, les autres comme s'occuper des enfants dans un seul but, pour le perfectionnement des saints, de l'œuvre et du ministère de l'édification du corps de Christ. Que vous soyez bénis ce matin et je vous invite vraiment à entrer, oui, entrer dans cet appel. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es un Dieu bon, grand et puissant. Merci Seigneur parce que même si l'actualité change, toi tu ne changes pas. Toi tu ne bouges pas, ta parole reste la même. Seigneur, je veux me remettre à toi et te remettre cet appel que tu nous lances, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, tous ensemble, ici, écoutons, Seigneur, entrer dans ce que tu veux pour nous, Seigneur. Que nous puissions tout réunir, nos talents, nos compétences, notre désir, nos forces, Seigneur, même si des fois c'est difficile pour le vivre à 100%. Parce que tu nous as fait cette promesse, Seigneur, c'est qu'il faut, un, redoubler d'efforts, mais que si nous redoublons d'efforts dans cet appel, alors nous ne tomberons jamais. Seigneur, je veux te prier pour nos cœurs, je veux te prier pour les âmes, Seigneur, également, qui te cherchent ou les âmes qui ne te cherchent pas, Seigneur, qu'un jour, à travers nous, Seigneur, elles puissent également s'approcher de toi. Mais que toute la gloire te revienne, quoi qu'il arrive, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. Je te loue et je t'honore, Père. Amen. Voilà, merci.